C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, c'est l'épisode 72. Au sommaire aujourd'hui, une délégation d'anciens combattants et d'anciennes combattantes visite des lieux importants de la Première Guerre mondiale. C'est un grand moment de réconciliation. Connaissez-vous Frédéric Hardy? Ben, il a été condamné aux travaux forcés en 1916 suite à une accusation liée à la sexualité. Il a été rappelé au front pour mourir au combat en 1917 et combien d'autres comme lui? On en parle avec Sean Dern, qui est un expert dans la matière. Et à notre segment Transcontinent Queer, on fait le tour du pays sur les fronts queer et trans. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 15 avril 2024. On a du front, tout le front qu'il faut pour vous informer.
Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
Le gouvernement du Canada a organisé des activités commémoratives à l'étranger pour les vétérans de LGBTQIA+, afin de commémorer la Première Guerre mondiale. C'est à l'approche du 107e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Le 6 avril, en Belgique, une délégation composée de représentants de vétérans arc-en-ciel du Canada et de la Purge, c'est la première délégation de vétérans de ce genre, a suivi les traces de Frédéric Hardy, dont on va parler un peu plus tard à l'émission, qui a été condamné aux travaux forcés en 1916 pour des accusations liées à sa sexualité et qui est par la suite mort au combat à travers les champs de bataille d'Europe. Pour en parler, on reçoit Martine Roy. Martine Roy est membre de La Purge. C'est un groupe d'anciens et d'anciennes membres des Forces armées canadiennes et d'anciens et d'anciennes fonctionnaires qui ont été humiliés, torturés et licenciés dans le déshonneur en raison de leur orientation sexuelle entre les années 60 et 90 à peu près. Rebienvenue à l'émission, Martine!
Bonjour Denis, merci de me recevoir.
Alors, on est tellement content de recevoir toi, la vétérane arc-en-ciel, je pense qu'on peut dire ça.
Oui, je fais partie des vétérans arc-en-ciel qui a été fondée d'ailleurs au travers du Fonds de la Purge LGBT. C'est comme un peu une extension de nous pour nous assurer une pérennité parce que, comme tu sais, le Fonds de la Purge, on a des choses à livrer, mais quand c'est terminé, on ferme les portes pour livrer, tu sais, le monument, l'exposition, la médaille, les archives, les recommandations aussi. Et au travers de tout ça, on a rencontré une jeune fille du nom de Sarah Workman, qui est une recherchiste de Terre-Neuve, qui nous a amené à nous arrêter un peu à penser aux gens qui étaient allés à la Première Guerre ou à la Deuxième Guerre, qui faisaient partie de nos communautés, qui n'ont jamais été salués, où on n'a jamais parlé, sont encore doublement invisibles. Donc, après ces recherches qu'on a aidé avec le Fonds de la Purge, on a parlé avec vétérans parce qu'on travaille de très près avec eux. Ils sont très contents d'ailleurs que Vétérans Arc-en-Ciel du Canada existe maintenant depuis 3 ans et le supporte grandement. Donc, la ministre Petitpas-Taylor, pour elle, c'est un bel ajout à tout ce qu'elle fait. So, ils ont accepté de monter une mission. Alors, on était les membres du Fonds de la Purge LGBT et les membres du conseil d'administration de les vétérans arc-en-ciel et quelques étudiants aussi qu'on a invités. On a essayé de vraiment aider les gens de vétérans. Alors, on s'est rendu à Ypres pour commencer. Et c'était vraiment, c'était quasiment comme une mission, là. C'était nous serrer. C'était à 8h le matin en rang, il fallait se lever à 7h et être quasiment les bottes cirées. Puis on pouvait porter d'ailleurs nos médailles et nos birets pour pouvoir saluer. Et à chaque endroit, on déposait une couronne pour le Canada, pour Vétérans Canada et pour les Vétérans Arc-en-Ciel Canada.
Ça devait être émouvant ça, Martine? Ça devait être émouvant pour toi ça?
Tellement, là, parce qu'on s'en rend pas compte quand on est au Canada de qu'est-ce que nos Canadiens ont fait pour la France, mais à la fin de la journée, pour la paix dans le monde. Beaucoup de monde sont décédés là-bas. Alors, moi, je trouvais que c'était un très grand geste. Je sais que les gens trouvent pourquoi vous allez là-bas et tout, mais je pense que c'est important, ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, on est même allé dans un cimetière que personne ne va visiter jamais.
Lequel?
Beaucoup de Canadiens qui ont été « Oh, là, tu me prends de court parce que je pense qu'ils ne me l'ont pas mis. » C'était près de Kennicott Cemetery, mais si tu veux, je vais te revenir.
Non, c'est pas grave. Juste, donc, c'est un cimetière qui revêtait une importance parce que c'est un cimetière qui, si je comprends bien, on pouvait voir là où il y avait plusieurs de nos vétérans, vétéranes arc-en-ciel, là, c'est ça?
Oui, mais pas juste ça. C'est des gens qui sont morts, pas identifiés. Canadiens, pas identifiés. Ça nous a vraiment pris au cœur. Parce que, tu sais, je veux dire, tu perds ton frère, ton père, c'est quelque chose. Alors, il y en avait beaucoup. Et oui, il y avait au travers de ça des gens qu'on a identifiés, dont Frédéric Arrigou, vraiment, ça, c'est une histoire plus que ça. Tu meurs vraiment parce qu'ils l'ont emprisonné, ils l'ont envoyé en Angleterre dans un cachot. Puis là, quand finalement la guerre est partie et qu'il avait besoin d'hommes, ils l'ont sorti de là, ils l'ont envoyé à Vigny où il est mort. Donc, tu sais, c'est vraiment d'une tristesse incroyable. Mais on a réussi, nous, avec justement les vétérans, d'avoir une plaque ici qui va sur le portail du gouvernement du Canada. Tu mets Frédéric Hardy. Tu vois toute la recherche de Sarah Workman qui a été faite sur lui et qui démontre aussi que son nom est écrit sur le building de Vigny. Alors, on s'est rendu devant. Si je te fais un petit peu vite, là, c'est Pachelbel qu'on est allé. On est allé après ça au Coquelicot Tea House. On est allé au Visit Kennicott Cemetery. Après ça, on est parti au départ de John McRae Memorial. Après ça, on a été à Menin Gate, où à tous les soirs, c'est la trompette avec la dernière chanson, qui est un son qui est pour les funérailles habituellement. Alors, c'est pas une fois par année, c'est à tous les soirs. C'est là qu'on voit à quel point les Flamands étaient reconnaissants de qu'est-ce qu'on a fait. Après ça, on est allé à Coopering Death Cell, où on a vu l'endroit pour les exécutions, où des femmes, justement, beaucoup de femmes dans ce temps-là étaient exécutées parce qu'elles ne se mariaient pas ou elles sortaient justement du lot.
Quelle horreur!
C'était vraiment... Après ça, on est allé au Talbot House. Ça, c'était particulier parce que le monsieur Talbot, c'était un aumônier qui avait ouvert une maison où tu ne buvais pas d'alcool, mais tu pouvais aller te reposer. Il y avait un piano, il y avait de la lecture, toutes sortes de choses. C'est devenu très connu. Ça aidait justement quand les gens se promenaient d'un pont à l'autre. Après ça, on est allé au Hill 70 Memorial, qu'on est allé visiter. Puis après ça, on est arrivé à Vigny. Laissez-moi vous dire, Vigny, c'est quelque chose. Et on est tombé le même soir qu'il y avait justement une soirée à la chandelle pour les Canadiens à Vigny avec les amis du monument canadien. C'est aussi très, très particulier. Moi, je vous le dis, je sais pas, c'est un peu spirituel, mais je sentais les gens sous mes pieds qui ont donné leur vie. Alors, ça m'a beaucoup touchée. Moi, j'ai dû revenir au Canada, mais la mission, elle a continué. Elle s'est rendue d'ailleurs jusqu'à Paris, finalement, où elle a fini avec l'ambassadeur LGBT à Paris. Donc, c'était une mission, pour ça que c'est un peu épuisé aujourd'hui, parce que c'était très serré, ça paraissait que c'était des militaires qui avaient monté ça. Mais pour nous, c'est important que le Canada, c'est quelque chose, ouais. Mes amis, moi, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose, ouais. Je ne sais pas pour vous, mais que le Canada prend le temps qu'on reconnaisse les gens qui font partie de la communauté queer, dans les dernières guerres, on travaille fort, justement, je pense, ça a été important.
Je vais t'amener sur quelque chose de très personnel parce que tu sais, tu as déjà passé à l'émission, Martine, pour nous parler de l'Ordre du Canada que tu avais reçu. Puis on avait parlé de ce que tu as vécu, puis je vais le répéter, hein, tu as vécu l'humiliation, des interrogatoires, le licenciement parce que tu aimais les femmes. Et aujourd'hui, hein, quand même, plusieurs années plus tard, on te célèbre. Comment réagis-tu à ça, personnellement?
C'est à deux tranchants. Je vois ça, comme une très grande responsabilité, honnêtement, d'être célébré comme ça, parce que ça me met dans une position. Puis en même temps, je suis très, très honorée. J'ai une gratitude immense. Ça fait du bien à mon traumatisme qu'on pourrait appeler que jamais guéri, parce que c'est juste cristallisé au travers des années, où j'ai toujours été une personne très insécure, qui trouvait qu'elle n'en faisait jamais assez, qui veut toujours en faire plus. Et tout ça, tu sais, ça a un coût. Hein, ça a un coût, ça dit toujours, ben, il faut que t'as tout le temps l'impression d'en faire plus. Mais moi, je suis très honorée, surtout en tant que Montréalaise, québécoise, puis aussi membre de la communauté de LGBTQ+, parce que c'est pas juste mon nom qui avait sur l'Ordre du Canada, c'est toute ma communauté qui était sur l'Ordre du Canada. Alors, ça, pour moi, là, c'est encore plus. Parce que j'ai pas vu nulle part sur les Ordres du Canada de LGBTQ+.
Non, et puis tu as été, puis qu'on honore des vétérans et vétéranes comme toi en France. Est-ce qu'il y aura des activités au Canada par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière?
Bien, c'est sûr qu'on continue, on continue les recherches. D'après moi, ils vont vouloir le faire pour la Deuxième Guerre mondiale aussi. Mais n'oublie pas qu'au Canada, nous, ça fait depuis 2017, surtout à Montréal, on avait commencé ça avec moi et Patrick Desmarais, où on remet une couronne le 11 novembre. Et sur la couronne, c'est le ruban de LGBTQ+. Maintenant, on le fait à Halifax, on le fait à Ottawa, on le fait partout. Puis si dans une des villes que les gens nous écoutent présentement, que ça soit Québec, Sherbrooke et tout, veulent le faire, les vétérans anciens du Canada vont payer pour cette couronne-là, vont vous mettre en contact avec la Légion dans la région où vous êtes, et vous allez pouvoir honorer vous aussi les anciens combattants et les vétérans qui faisaient partie de la communauté de LGBTQ+. C'est ça l'idée. C'est de s'inclure partout parce qu'on est inclus partout. Et moi, c'est ma mission dans la vie. C'est vraiment que ça soit même à la bande PD, comme tu as dit, de m'inclure et de dire qu'on fait partie des affaires, que le fond de la purge, qu'on va créer un monument, une exposition, que d'avoir les vétérans arc-en-ciel du Canada, ça veut dire on s'inclut dans les légions.
On n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on parle justement de la purge. Je sais que vous avez un projet de monument. C'est rendu où, ce projet-là?
Bien, la première pelle de terre est le 1er mai.
Ah, j'ai un scoop!
En cours, hein? Bien oui, c'est un scoop. Puis l'invitation, elle a sorti hier, d'ailleurs. Donc, la première pelle de terre va être à Ottawa le 1er mai, à 4 heures en après-midi. Mais c'est pas là qu'on lance le monument. Là. C'est vraiment... On commence le bâtiment, tu sais, la construction. Puis, tu sais, 11 mètres, là, moi, c'est drôle, tu sais, tu l'as sur plan et tout, mais quand j'étais à Vigny, tout ça, ces monuments-là, ils ont 11 mètres. C'est énorme. Ce monument-là va être vraiment gros. Il est pour toutes les communautés de LGBTQ+. C'est un cadeau du fond de la purge LGBT. C'est sûr que ça va en parler, mais ça parle de toute notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Ça va être un monument exceptionnel. Je suis très, 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 très excitée par rapport à ça. La même chose avec le Musée des droits humains. La première niche va sortir à la fin mai à Winnipeg. Mais comme j'ai déjà dit, on va pas tous à Winnipeg. Moi, c'est important que ça soit accessible à tous. Donc, il y a deux expositions qui vont sortir de ça. Une grosse va se promener dans le musée, puis une autre plus petite va pouvoir se promener dans des consulats ou des endroits plus petits pour qu'on puisse tous le voir.
Ah, Martine, c'est toujours plaisant de te recevoir à l'émission. J'espère te revoir très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous.
Mais ça fait plaisir. À bientôt.
À bientôt.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Donc, j'aurais voulu vous le dire avant, mais je le dis maintenant, cette entrevue a été préenregistrée chez moi, avec mon mini-studio, et je me rends compte que ben, les meilleurs studios, c'est pas l'épreuve des chiens qui viennent japper, et le son, ben, ça avait l'air très bon, puis c'était plus aussi bon que c'était, mais bon, on va apprendre à mieux utiliser ce système-là à l'avenir. Le prochain invité s'appelle Sean Dern. Il a cofondé Secret Agents ou Agents Secrets, enseignant aussi en journalisme à l'Université Concordia à Montréal, animateur de Queer Legends, un oral history podcast. Et donc, c'est quelqu'un qui raconte beaucoup de choses. Bonjour, bienvenue à l'émission, Sean.
Bonjour, bonjour, enchanté. Ça fait
Alors,
plaisir.
oui, alors comme c'est la première fois qu'on parle avec toi, je vais te demander quel pronom et quels accords on doit utiliser.
Il va être correct pour moi. He,
Parfait.
him, comme on dit en anglais. Il, lui.
Heal him, oui, pas de
C'est
problème.
ça, c'est heal.
Écoute, je vais aller tout de suite au cœur de l'action. Pourquoi on t'a invité? Parce qu'on a mentionné le nom de quelqu'un tout à l'heure dans cette entrevue qu'on a faite avec Martine Roy. On a mentionné le nom de Frédéric Lee Hardy et on a aussi mentionné le nom de Russ Hamilton. Alors, ben écoute, je pense que allons-y avec cette première question. Frédéric Lee Hardy, c'est qui?
Ben, Frédéric Lee Hardy, c'est un jeune qui a décidé d'aller se joindre aux militaires en 1914 à peu près. Il y avait 15 ans. Il vivait à Brandon, à Manitoba, mais il était né en Ontario, je crois. Quand il a passé aux guerres, la Première Guerre mondiale, il se trouvait en Belgique et il a rencontré un autre gars, un Français qui s'appelait Albert Goulet. Et ils ont été découverts, je veux dire, comme dans un petit champ près de leur camp, là. Tu imagines un champ plein de fleurs, whatever, là. Et ces deux gars-là étaient tout calmes ensemble et tout à coup, il y avait comme cinq soldats qui sont venus. Et ils ont été attrapés et arrêtés. C'est pas juste son affaire, vraiment, là. Son histoire est un peu triste, là. Il était découvert, ses activités sexuelles ont été racontées devant tout le monde, là, tous les soldats dans son camp, là. Et c'était comme les officiers en charge, il y avait des responsabilités judiciaires en même temps d'être en charge des soldats. Et normalement, ces gens-là n'avaient aucune expérience avec les choses juridiques. Et lui, ben, il était trouvé coupable. C'était pas vraiment un processus juste. Et il était envoyé au Royaume-Uni. Et il est passé ses derniers jours dans une prison comme épouvantable là-bas. Si vous connaissez un peu Oscar Wilde et son histoire, là, c'était le même prison que Oscar Wilde a été mis dedans et le même style de comment tu dis ça en français?
Des travaux forcés?
C'est ça, les travaux forcés, là,
Oui,
tu
oui.
sais, c'était très difficile et c'était comme dégueulasse dans la prison. Il y avait des planchers pleins d'eau, des fourmis. Juste pour être gay, là, imagine, là, un gars de 15 ans
15 ans.
et tu te rends dans prison parce que tu étais attrapé dans les bras d'un autre gars, là, tu sais. Et c'était vraiment épouvantable pour lui.
On remonte
Et
en 1916, mais cela dit, c'est quand même, hein, un petit peu plus que 100 ans, hein, à cette époque-là, on nous jetait en prison.
c'est ça, c'est ça. Fait que lui, il est mort de la bataille d'août 1917 sur la colline 70, on dit
Oui, oui.
Hill 70, comme on dit en anglais,
Oui.
et dans la bataille de Vimy. Et
Juste parce qu'on a oublié de le dire, c'est qu'il était aux travaux forcés, mais on l'a rappelé pour venir au front et il est mort au front.
c'est ça. Il est mort au front parce qu'il avait besoin des soldats, comme Martine
La
a
chair à
mentionné.
canon.
C'est ça, exactement. Et c'était ça son histoire, là, tu sais. Et il était reconnu par sa sœur, je crois. C'est Sarah Worthman qui m'a raconté tout ça. Il faut dire que c'est vraiment grâce à Sarah Worthman que tout ça a été dévoilé.
Oui, je
Et
vais juste prendre la peine de la présenter. Sarah Wortman, c'est quelqu'un avec qui on a eu des contacts d'ailleurs. Elle est fondatrice de la Newfoundland and Labrador Queer Research Initiative, qui enquête donc sur la persécution de soldats queer durant la Première Guerre mondiale par le gouvernement du Canada. Puis c'est vrai qu'elle a découvert des choses étonnantes, dont cette histoire-là, mais il y en a d'autres.
oui, il y a plusieurs. C'est lequel tu veux commencer? Il y a Ross Hamilton qui est le plus populaire. Je crois qu'il y avait. Ben, je connais un qui s'appelle Private Rousseau. Je ne me souviens pas son prénom,
Ouais.
malheureusement, mais c'est une francophone, je crois, de la région de Montréal, pas loin. Et de toute façon, lui, il était trouvé avec un autre soldat francophone. Et lui, il ne parlait pas anglais. OK? Et il faut pas oublier à ce point. À l'époque, le militaire canadien était un militaire anglais. Oui, il y avait comme les 22e, là,
Ouais.
mais En fait, toute la langue commune militaire à ce point-là était anglais. Et lui, comme un soldat francophone qui ne parlait pas anglais, trouvé comme Frédéric avec un autre gars, lui, il était trouvé dans une tente du barbier. Apparemment, les barbiers à l'époque, il y avait comme une petite tente avec un lit en arrière.
Ouais.
Et lui et Albert ont été trouvés là. Et fait que Rousseau avait juste 17 ans et lui aussi. Comme Frédéric, tous les détails de son bain, si on peut dire ça, sur la radio, je m'excuse, a été dévoilé devant tout le monde. Là,
bon, ici, on peut parler de baise, on peut parler de sexe, en autant qu'on demeure...
C'est la première fois que je suis sur les ondes francophones, fait que je fais mon possible. Mais lui, là, c'était tellement triste pour lui parce qu'il ne parlait pas anglais. T'sais? Et imagine d'être dans un processus ou un process juridique tout en anglais. Il était obligé de dire qu'il était coupable et encore jeté en prison. Et comme l'autre, il avait besoin des soldats à la fin, fait qu'il était remis au front. C'est ça, les front lines?
Oui, ils sont retournés au front puis ils sont morts au combat. Est-ce que lui, il est mort au combat aussi? On ne sait pas, hein, Ross?
Non. Pas Ross.
Ah, parce que tu me parlais de...
Je te parle d'un autre soldat, ouais. M. Rousseau.
On les mêle, juste... je suis désolé, là. C'est ma faute. Mais,
ouais. Il y avait plein de soldats. Et en fait, Sarah, dans ses recherches, elle a trouvé 19 soldats gays ou bisexuels. Et c'est triste parce qu'on les connaît seulement à cause de leur situation juridique. Ouais. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de soldats gays ou lesbiennes. Là. Ouais. Mais c'est juste parce que ces gens-là ont été attrapés.
Ben, justement, un des noms qui ressort, il y a d'autres noms. Il y avait celui du soldat Alexander McKenzie.
Oui, je connais le nom, mais malheureusement, je ne connais pas son histoire au complet. J'ai juste connu le nom quand j'ai parlé avec Sarah.
Un autre qui s'ajoute à la liste, quoi.
Oui, c'est ça. Et c'est juste le fait qu'on les connaît juste parce qu'ils ont été attrapés, c'est ça qui me frustre. Là. De toutes ces histoires-là, là, ils mettaient leur vie comme sur les fronts de toute façon. Ils sont des patriotes, là, comme
on
dit.
Oui. Les patriotes, oui.
Les patriotes.
Oui. Ben, allons-y, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il y a même une histoire de timbre qu'on veut avoir. L'histoire fascinante de Ross Hamilton. C'est vraiment... Moi, je suis allé lire sur lui. Je vais te laisser raconter l'histoire.
Ben, qu'est-ce que tu as aimé le plus de son histoire?
Ben, que c'était un entertainer. C'était quelqu'un qui faisait des spectacles, hein, pour divertir les gens dans les forces. Et ouais. Bon, je pense que si j'ai compris, il s'habillait en femme de temps à autre.
Ben, lui, il venait de Nouvelle-Écosse, d'une petite ville qui s'appelle Pugwash, si
je
me
connais
bien.
J'ai vécu en Nouvelle-Écosse, oui.
Hey, j'ai de la famille qui vient de là-bas aussi. Et j'ai même été pour un mariage à Pugwash, juste à côté de Anne-Marie. Anyway, c'est une autre histoire. Elle était la voisine à côté.
On est vraiment Ross... queer, toi et moi. Anne-Marie, on est tous les deux amateurs, j'imagine. Hein? Bon, OK, on continue. Allons-y sur Ross Hamilton.
C'est un tour d'affaire. Okay. Ross était un... J'espère que c'est le bon... J'ai checké sur Google. Là. Brancardier, c'est un stretcher bearer, comme
on
dit.
Oui, c'est ça.
OK. Ross était brancardier pendant la Première Guerre mondiale. C'était un job comme très, très dangereux. Il faisait également partie d'une troupe des concerts qui s'appelle The Dumbbells. Puis les Dumbbells ont été créés comme juste avant Vimy encore. Il y avait plusieurs groupes. J'imagine qu'il y avait des groupes de concerts. Je ne sais pas si ça traduit bien, là, mais j'imagine qu'il y avait des versions francophones aussi. Mais je ne les connais pas. Mais Ross, il a créé son personnage Marjorie. Et comme si les gens checkent sur Google là, les images de Ross Hamilton, toutes ses jupes et bijoux étaient faites grâce aux les tentes. Il utilisait des rosaries pour faire des bijoux, etc. Et c'était vraiment spécial. Et son personnage est devenu comme tellement populaire et connu. Il a fait des spectacles à New York, éventuellement sur Broadway. Il a fait des spectacles devant les rois et les reines en Europe, là, Belgique, en Bretagne aussi. Il a vraiment travaillé fort pour donner un bon esprit aux soldats pendant une situation qui était assez difficile.
Mais il a quand même souffert de l'ambivalence de l'armée, là. Parce que lui, on l'a mis à la porte, là, si je comprends bien.
C'est ça, mais ils ont fait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que là, la guerre termine, il retourne pour faire sa vie personnelle et éventuellement, il décide, OK, je vais retourner en guerre. Il était comme, pas bénévole, là, mais il a mis son nom pour retourner pour faire d'autres spectacles. Mais à ce point-là, il est rendu plus âgé. Il était comme chanteuse d'opéra, comme assez âgé, là. Tu sais, c'était comme Senior's Day au opéra. Mais il était très, très connu, mais c'est là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que son sexualité était dévoilée, il était jeté, et elle est retournée à Nouvelle-Écosse, près de Pogwash. Je ne sais pas si c'était exactement à Pogwash ou non, mais il a passé le reste de sa vie tellement impliqué dans la communauté. Il faisait du bénévole, il aidait ses voisins, voisines, quand ils ont été malades, etc. Il était vraiment quelqu'un connu et quelqu'un impliqué dans la communauté, et il était vraiment, vraiment spécial.
Écoute, c'est fascinant, puis il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais quand même parler du fait que, rapidement, il y a une campagne pour qu'on fasse un timbre poste à la mémoire, donc, de Russ Hamilton.
Oui, c'est vrai, c'est grâce à Mika Van Vulpen qui fait ça, aussi de Nouvelle-Écosse. Elle, son père, a connu Ross Hamilton personnellement, et ces deux-là vont faire partie de mon balado qui s'en vient sur le même sujet. Mais présentement, Mika, elle était tellement impressionnée par Ross et son histoire, etc. Elle a commencé un grand campagne pour lui mettre sur un timbre du Poste Canada. Les gens peuvent... je crois qu'elle a commencé une pétition,
oui.
C'est ça? Une pétition,
oui.
Pour lui mettre. Et les gens sont encouragés d'envoyer des lettres ou des courriels au Poste Canada pour donner leur support pour le projet. Je ne sais pas si c'est une campagne officielle, là, mais je sais qu'il y avait bien d'intérêt des autres médias. Et c'est ça.
Nous aussi, on va s'intéresser à ça. Sean, on va certainement te réinviter pour parler justement de ton podcast, Queer Legends and Oral History Podcast. Je pense que ce serait important qu'on discute de ça. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Alors nous, on va faire une courte pause. Après la courte pause, on va faire le tour du Canada queer francophone à notre discussion mensuelle Transcontinent queer. Restez des nôtres, donc on vous revient dans deux petites minutes.
Ici Marie Lalande. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Eh bien, nous, on s'en va faire le tour du Canada pour prendre des nouvelles queer francophones.
Transcontinent queer. Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre.
Bonjour tout le monde. Eh bien, notre discussion mensuelle sur les enjeux et les actualités queer et trans avec nos collègues d'un bout à l'autre du pays, ça revient aujourd'hui. Alors, deux de mes invités sont là. Dan Robichaud, qui est animateur de radio, artiste et activiste qu'on rejoint à Claire. Et Elisabeth Bruns, qu'on rejoint à Toronto, qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire à Franco-Queer. Et on a aussi Rose-Eva Forg-Jenkins, qui est coordonnatrice de la programmation Comité Franco-Queer de l'Ouest à Edmonton. On va commencer avec toi, Dan, aujourd'hui. Les personnes qui vivent la dysphorie de genre et qui doivent trouver une façon de se vêtir pour mieux refléter leur expression ou leur affirmation de genre ne l'ont pas toujours très facile. Ah, il y a une ressource qui a vu le jour en 2022 chez vous, en Nouvelle-Écosse, et qui prend sa place dans nos communautés. Ça s'appelle le Transformation Closet. C'est quoi ça?
Oui, effectivement, c'est un programme qui a commencé l'an dernier, mais qui continue. C'est le placard de transformation, le Transformation Closet. C'est un programme qui est géré et hébergé sous l'Agence des santé sexuelle Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Sexual Health, qui ont des bureaux à peu près partout dans la province.
Tu es en train de me dire que c'est gouvernemental, ça, j'avais pas lu ça.
Non, je pense que c'est une agence de bienfaisance,
ah,
là, dans le fond.
Ouais.
Et puis, c'est un programme où des gens de tout âge peuvent obtenir de l'équipement et des vêtements de confirmation de genre. Puis ça peut être juste des vêtements, des vrais vêtements. Ça peut être des prothèses mammaires ou les vêtements compressifs, ce qu'on appelle les
Les
binders.
binders, oui.
Et puis, de tout vêtement qui peut aider à une personne à se sentir à l'aise dans son corps,
Est-ce
dans le fond.
qu'on parle de vêtements neufs ou des vêtements usagés ou les deux?
Les deux, on demande aux gens de faire des dons au bureau de l'agence autant qu'on veut faire savoir aux gens qui peuvent se rendre à n'importe quel bureau de l'agence de la Nouvelle-Écosse et demander ce service. Et puis depuis l'automne de 2023, l'année dernière, il y a un coordinateur qui a été embauché pour assurer la supervision du programme. C'est-à-dire qu'il y a une personne à temps plein qui s'occupe de gérer ce programme-là. Puis les gens peuvent accéder au programme en personne dans les bureaux de Sexual Health Nova Scotia ou même faire une commande en ligne. Ça fait que le programme a un site web où on peut remplir un formulaire et faire ce demande comme ça ou par email.
Et j'imagine que ce n'est pas trop cher non plus, parce qu'il faut savoir que beaucoup des personnes qui se trouvent dans ces situations-là n'ont aussi pas tant d'argent que ça à dépenser, hein.
Effectivement. Et bien qu'on parle point du prix dans les ressources qui sont disponibles, je suis certain que c'est destiné aux personnes qui ont peut-être des plus faibles revenus, mais c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est peut-être plus notable de ce programme-là, c'est que bien qu'il y a des programmes pour les jeunes, les 30 ans et moins ou les 25 ans et moins, c'est la première fois en Nouvelle-Écosse qu'on a un programme comme ça pour appuyer les gens de tout âge.
Moi, je serais curieux de savoir, je vais demander à mes deux autres participantes, Elisabeth et Roséva, est-ce que ça existe chez vous, ce genre de ressources, et comment ça fonctionne?
Oui, merci Denis et Roséva. Je vais répondre
Oui,
pour moi,
vas-y.
en Alberta, Edmonton spécifiquement. Donc, il y a le Pride Center of Edmonton qui ont un community closet et un programme d'échange de binder. Alors, le community closet ou t'sais, le garde-robe communautaire, c'est pour n'importe qui. T'sais, ils ont fait, c'est vraiment bien comment ils ont arrangé ça. On dirait comme si tu étais un magasin. Puis là, tu peux choisir t'sais, des vêtements qui sont usagés, que des personnes qui font une transition, qui veulent des vêtements qui vont confirmer leur genre. Ils ont accès à ces nouveaux vêtements-là. Alors, ça, c'est vraiment fantastique parce que c'est la façon que c'est organisé, tu sais, c'est pas, on dirait dans un magasin, ça fait beau, ça fait le fun, il y a des places où est-ce que tu peux aller te changer. Mais c'est gratuit. Et il y a aussi leur programme de Binder Exchange où est-ce que c'est des personnes que, tu sais, peut-être qu'eux autres, ils n'ont plus besoin de leur binder, leur vêtement de compression qui peuvent. T'sais, qui vont donner, puis que là, d'autres personnes qui ont besoin peuvent aller regarder la sélection qui existe. Puis, c'est ça, puisque nous autres, on est un organisme francophone, puis il y avait un jeune qui est venu me parler puis dire, tu sais, moi, je viens juste de déménager, où est-ce que, en Alberta, je parle pas l'anglais, est-ce que tu pourrais faire la traduction pour moi? Alors, moi, j'ai allé avec un jeune, on est allé au Pride Center pour aller trouver des vêtements de compression qui fonctionnaient pour lui. Malheureusement, il n'y avait pas une taille qui faisait. Donc, ils nous ont donné un petit certificat, une petite lettre pour aller à un magasin où est-ce qu'ils ont des vêtements de compression. Puis avec ce certificat-là qui dit, tu sais, cette personne va avoir accès à un vêtement de compression gratuit. Alors là, ça va être gratuit pour la personne, peut aller au magasin et trouver un vêtement qui fonctionne pour eux. Alors, c'était moi qui traduisais, c'était intéressant. Tu sais, il y avait la personne qui gère le magasin, qui donnait des instructions dans la porte, tu sais, extérieur de la porte aux jeunes pour, tu sais, est-ce que ça fait comme ça? Est-ce que ça fait comme ça? Puis moi, je traduisais pour
Oh,
les deux. Puis, tu sais, après ça, le jeune, quand il est sorti, avec un vêtement qui lui faisait, tu sais, la joie sur la face. Et c'est tellement, tu sais, c'est vraiment pour ça que je fais mon travail, parce que c'était quelque chose, que c'était un moment tellement touchant, tu sais. Puis tout le monde, le fait que ce jeune pouvait avoir un vêtement qui fait tellement une différence pour lui, surtout parce que les vêtements de compression, si c'est pas une bonne taille, ça peut être dangereux, ça peut faire du mal. Alors, tu sais, ce jeune, tu sais, la manière qu'il m'a regardé, puis il a dit, oh, ben là, je peux respirer. Tu sais, ça faisait
Wow.
vraiment très
Mais,
inspirant.
mais vraiment, quel beau partage, Roséva. Merci beaucoup. Elisabeth, toi, tu as quelque chose à ajouter sur ça?
Ouais, ben, ce genre d'initiative-là existe aussi en Ontario, juste dans la région de Toronto. Il y a différents modèles. Il y a un groupe qui s'appelle Binders Out, qui est comme un collectif grassroots qui facilite l'échange de vêtements de compression entre des gens, comme tu disais, Roséva, qui en ont plus besoin et les personnes qui en ont besoin. Il y a aussi comme l'association étudiante LGBT des étudiants de l'Université de York, qui, elle, a comme une collaboration avec une boutique de vêtements affirmatifs du genre et puis qui parraine l'achat de vêtements affirmatifs, ce qui est cool. Il y a aussi récemment, à la bibliothèque de Bradford, donc juste un petit peu au nord de Toronto, une bibliothèque qui a ouvert comme un garde-robe de vêtements inclusifs que les gens peuvent utiliser au sein de la succursale. Alors, ouais, tout plein de belles initiatives. C'est beau de voir les choses comme ça
Puis
prendre
ça a
vie.
l'air bien, ça a l'air vraiment non stigmatisant aussi, hein, j'ai l'impression, ça que c'est bon. Ben écoute, il y a un deuxième sujet. On a parlé des choses, une belle nouvelle pour commencer, mais allons avec quelque chose d'un petit peu moins le fun. J'ai lu qu'il y avait une hausse de 93 %, Elisabeth, des crimes haineux. Les communautés LGBT, de LGBTQIA+, en font grandement partie. Ça, on parle de Toronto, en fait, ça, si j'ai bien lu. Comment on explique ça?
C'est une grosse question que tu poses,
J'ai toujours des bonnes grosses questions comme ça, mais on va t'aider. Ne t'en fais pas.
Ben, écoute, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais je dirais que ce qu'on observe, c'est que c'est lié à ce mouvement de la droite alternative, entre guillemets, de l'extrême droite, qui voit les droits LGBT, particulièrement la reconnaissance, la protection des droits des personnes trans, non binaires et non conformes de genre, comme un genre d'affront aux valeurs traditionnelles, comme une attaque sur la masculinité. Puis il y a tellement de désinformation et de mésinformation qui circulent sur Internet. On dirait que c'est comme dans des moments de difficulté économique, les gens cherchent un bouc émissaire. On voit comme la montée de ce populisme à travers le monde, puis comme un renvoi vers un âge d'or de valeurs traditionnelles, familiales, comme c'est-à-dire patriarcales. Puis là, il y a comme ce résultat, comme une panique des valeurs traditionnelles et puis qui vise son agression, sa violence contre nos communautés. Mais c'est pas juste comme des discours marginaux, comme c'est renforcé par des gens comme Doug Ford, comme Daniel Smith, comme Pierre Poilievre, comme ça circule vraiment dans le
Je
mainstream.
vais t'interrompre. Donc, Doug Ford, qui est le premier ministre de l'Ontario, Daniel Smith, premier ministre de l'Alberta, et Pierre Poilievre, qui veut devenir premier ministre du Canada, qui est chef du Parti conservateur. Je vais le spécifier pour les gens qui ne le savaient pas. Donc, oui, ces gens-là renforcent ce discours, intolérant-là.
Et puis, ensuite, c'est pas étonnant quand ce di discours circule et dépeint les personnes trans et de genre divers comme étant dangereuses, comme étant quelque chose duquel on devrait protéger les enfants. C'est pas étonnant ensuite que les gens se sentent enhardis de passer à des actes haineux.
Est-ce que les policiers font assez pour protéger nos communautés? Et là, je sais que depuis un bout de temps qu'on dit que les relations ne sont pas toujours très bonnes entre la police et les communautés, surtout en Ontario. Est-ce que les policiers font assez ou devraient faire plus?
Mais c'est une question intéressante parce que je pense que dans beaucoup de cas, le moment où la police intervient, le crime présumé a déjà été commis, l'acte haineux a déjà été commis. Alors, c'est pas à ce moment-là que ça protège les victimes, le mal est fait. Et puis ensuite, des fois, le processus légal et juridique peut retraumatiser les victimes de ces actes. Et puis, en fin de compte, rétablit pas vraiment le sentiment de sécurité, alors atteint pas vraiment son objectif. Alors, je pense qu'au-delà de comme des interventions policières, ce qui faudrait, ce serait de prévenir ces actes haineux. Puis ça passe par l'éducation, que ce soit dans les écoles ou dans les milieux de vie. Ça passe par de la meilleure représentation de nos communautés dans les médias. Ça passe par le contrôle du contenu auquel on donne des plateformes sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de prévenir les actes haineux avant qu'ils aient lieu et avant de devoir impliquer la police et puis tout ce processus légal-là.
Roséva et Daniel, ça a l'air de quoi dans votre coin du monde? Roséva, vas-y.
Oui, ben justement, tu sais, quand Elisabeth parlait de, tu sais, la police, est-ce que c'est quelque chose qui nous aide? Tu sais, moi, ça m'a fait penser à, tu sais, l'année passée quand il y avait les manifestations contre les 1 Million Man March, tu sais, les personnes qui se manifestaient contre, tu sais, l'éducation Soji dans les écoles. C'est, on puis ça, c'était un bord de la rue, puis de l'autre bord, c'était les personnes qui faisaient les contre-manifestations, les personnes qui disaient, tu sais, on veut de la sécurité pour les jeunes queer et trans. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la police est arrivée, puis ils sont pas allés de notre bord, sont pas allés de l'autre bord, sont allés de notre bord. Puis, tu sais, c'est comme, ben, nous autres, on fait une contre-manifestation et, tu sais, de quoi qui parlait au monde, tu sais, quand nous autres, on était là avec nos panneaux, tu sais, nos drapeaux, et je pense qu'ils ont allé harceler quelqu'un parce qu'il portait, tu sais, un masque de ski, là, pour protéger son identité. Alors, c'était vraiment, tu sais, ça, je pense que ça continue quand tu avais parlé, Denis Martin, tu sais, ça fait longtemps que les polices, on sait que notre communauté, c'est pas la police qui nous protège, c'est nous. Alors, c'est la police, on a vu que clairement, tu sais, il y avait deux bords à choisir et ils sont venus nous harceler et pas l'autre bord des personnes qui faisaient la manifestation tu sais, contre les programmes de Soji. Alors, c'est ça, c'est vraiment la sécurité, c'est comme Elisabeth a dit, c'est avec l'éducation, les personnes que c'est quelque chose qu'ils ne savent pas, donc leur réaction à quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est la peur. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser pour que ça vienne quelque chose normalisé et ne pas aller vers la haine?
Rapidement, Daniel.
Je pense qu'au moins en Nouvelle-Écosse, la police le prend au sérieux quand il y a des actes haineux. Il y a un exemple qui s'est produit au mois de janvier lorsqu'un homme a profané un drapeau de la fierté à Lower Sackville, une banlieue de Halifax. Et quand la police a enquêté l'acte, ils ont trouvé et saisi dans sa maison plusieurs armes à feu. Ça fait que je pense que ça montre que parfois c'est pas juste du théâtre, il peut vraiment avoir une menace sérieuse. L'homme a été arrêté, là. Disons que
Ouais,
l'homme a été arrêté.
j'ai vu ça dans les journaux, là. Je ne sais pas ce qu'aura lieu son procès ou autre chose.
Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Transcontinent queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre.
On retrouve Roseva Fogg-Jenkins, qui est coordonnatrice de programme Comité franco-queer de l'Ouest à Edmonton, Elisabeth Bruins, qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire à franco-queer à Toronto, et notre artiste, activiste et animateur de radio, Dan Robichaud, qui est à Clare, en Nouvelle-Écosse. Roseva, c'est à toi que je vais lancer cette question-là. L'Alberta veut intervenir dans la cause en justice contre la Saskatchewan par rapport à sa loi sur les mineurs trans ou non-binaires à l'école. Ah là là, pourquoi l'Alberta veut se mêler de ça?
Oui, c'est quelque chose que, pour être honnête, j'ai de la misère à comprendre exactement comment que ça fonctionne parce que c'est des choses politiques, c'est des lois mises en place, puis c'est quelque chose, c'est vraiment pas ma force. Mais ce que je comprends, c'est que puisque la Saskatchewan veut, c'est veut que les ils ont une loi qu'ils veulent mettre en avant pour que les jeunes ne peuvent pas s'appeler un différent pronom. Aussi, ils se font appeler un différent pronom à l'école que les parents doivent savoir et avoir le consentement des parents. Et Danielle Smith, qui est t'sais, la première ministre de l'Alberta, a utilisé sa disposition de dérogation pour empêcher que les lois fédérales puissent intervenir, alors que je pense, de ce que je comprends que ça veut dire, c'est que l'Alberta voudrait appuyer la Saskatchewan pour enlever ses droits pour les jeunes, puisque l'Alberta, eux aussi, veulent enlever les droits des jeunes queer et trans. Alors, c'est de ce que je comprends, mais si quelqu'un comprend mieux comment que ça fonctionne, s'il vous plaît, corrigez-moi.
Non, je pense que tu as très bien expliqué. Effectivement, l'Alberta veut s'impliquer parce qu'elle croit vraiment que c'est la défense de l'autonomie provinciale qui est là-dedans. Mais cela dit, Daniel Smith nous haït. Elle a fait des communautés queer ses boucs émissaires. Pourquoi qu'elle nous haït tant que ça?
Oui, c'est vraiment... c'est une très, très bonne question. Je voudrais bien savoir.
Il n'y a pas toujours de réponse aux questions, mais on peut en discuter, hein, c'est ça.
Oui, absolument. Puis c'est très intéressant parce que comme... Je dis, quand elle a proposé les lois, c'est pour enlever les droits des jeunes queer et trans pour, tu sais, aller... pour être capable de s'identifier avec un différent pronom, un pronom choisi à l'école, pour enlever être capable d'avoir accès aux bloqueurs, tu sais, d'hormones. Alors, c'est vraiment une attaque contre les jeunes queer et trans, mais ce qui était intéressant, c'est que comment qu'elle avait présenté, c'était comme si, oh, j'aime les jeunes queer et trans, je veux ici pour les aider. Alors, c'est vraiment intéressant qu'elle se présente comme si elle mettait ses mesures pour aider aux jeunes, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment contre eux. Alors, je me demande, c'est comment longtemps qu'elle va faire semblant de aimer les jeunes puis vouloir leur aider, puis quand le masque de, tu sais, la vérité de qu'est-ce qu'elle fait, c'est d'enlever leurs droits, c'est quand que ça va vraiment plus... tu sais, qu'elle va être plus honnête avec ses buts d'enlever le droit des jeunes queer et trans. Puis, il y a aussi des personnes qui ont, tu sais, quand elle a annoncé ceci, ils se sont posé la question, ben l'annonce qu'elle a faite, c'était la même journée qu'elle faisait une annonce que l'Alberta, on avait moins d'argent pour combattre les feux de forêt. Et les feux de forêt, c'est quelque chose qui augmente de plus en plus.
Ah oui, mais c'est déjà parti la saison des feux de forêt chez vous. Ça va vraiment pas bien, là.
La neige, elle a fondu, puis tout de suite, on avait des feux de forêt. Alors, je pense, ce que des théories que j'ai entendues, c'est que des personnes qui disent, ben pour cacher son gouvernement ne fait pas, c'est à gère pas bien l'argent, puis elle fait pas qu'est-ce que les gens veulent. Alors, c'est vraiment une façon de comme distraire de son but. C'est quelque chose qu'elle sait que les gens veulent, tu sais, vont parler, puis avoir plus la discussion sur ceci au lieu de la façon dont son gouvernement est inutile.
Ouais, c'est un peu un écran de fumée, comme dirait l'autre. Alors, donc, il y a l'Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick qu'on nous aime pas en tout. En Ontario, ça a l'air de quoi? Est-ce qu'on va avoir ce genre de façon de faire de la part de Doug Ford, Elisabeth?
Aux dernières nouvelles que j'avais lues, il prétendait qu'il n'allait pas suivre dans ces pas-là. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario a dit qu'il n'allait pas mettre en place ce genre de politique, mais en même temps, il y a des discours... quand même très, très intolérant à l'égard des jeunes trans et queer, comme quoi on veut défendre les droits des parents et puis que l'identité de genre, ça devrait dépendre des parents et tout ça. Donc, on ne sait jamais s'ils vont revenir sur ce qu'ils ont dit.
Oui, je vais rappeler les paroles d'une personne très sage qui participe régulièrement à cette discussion, qui est Arnaud Baudry, qui disait que, et c'est vrai, hein, le droit parental, ça n'existe pas. Il n'y a pas de loi qui reconnaît ça. C'est la responsabilité parentale. Je te lance la balle, Dan Robichaud. Je sais que toi, dans ta région, il y a le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui n'est pas très... En fait, qui fait partie de ce groupe anti-queer ou anti-trans. Ça a l'air de quoi, là, dans les autres provinces, en Nouvelle-Écosse, entre autres?
En Nouvelle-Écosse, je ne sais pas, mais on sent qu'on est peut-être plus tolérant. On ne voit pas de campagne, parce que vraiment, là, c'est presque mené comme une campagne d'insérer ces drôles de politiques-là. Je peux vous dire qu'au niveau de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement de la province de la Nouvelle-Écosse, le ministère de l'Éducation, non, on n'a pas. Si on en parle, c'est à huis clos, mais ça ne fait pas la une, ça ne fait pas parler non plus.
Bon, on va changer de sujet. Ça te revient à nouveau, Dan. Il y a eu un symposium sur les milieux d'affaires, sur l'inclusion de nos communautés. C'était organisé par la Chambre de commerce du LGBTQIA+ du Canada à Halifax. Ça a donné quoi, ça?
Oui, c'était le 26 mars dernier, puis c'était un symposium des affaires queer à Halifax. C'était plus ou moins un espace d'apprentissage et réseautage. Il y avait des panels, des discussions comme celle-ci, ainsi que des ateliers sur les finances, les ressources, même la discrimination qu'une entreprise qui s'affiche queer peut rencontrer. Puis, somme toute, c'était l'importance du réseautage qui a été soulignée.
Est-ce que, puis là je pose la question à vous trois, peut-être que vous pouvez répondre à ça, est-ce que peut-être que l'émancipation de nos communautés va peut-être pas passer nécessairement par les gouvernements, mais ça pourrait passer par le monde des affaires, parce qu'on voit que le EDI, là, l'équité, la diversité puis l'inclusion, ça marche dans beaucoup de compagnies. Je vois que tu veux réagir, Elisabeth, moi.
Ben, on collabore souvent avec une organisation qui s'appelle Fierté au travail,
oui.
qui vise à créer des milieux inclusifs dans les entreprises et les organisations. Et on voit à travers le travail qu'il y a quand même beaucoup de volonté dans le milieu des affaires de créer des environnements de travail plus inclusifs, ce qui est encourageant. Mais je ne suis pas 100% certaine que ça se traduise dans les faits. Quand on parle aux membres de notre communauté, ce qu'on entend, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de discrimination envers les personnes trans et non conformes dans le genre, dans le milieu du travail. Et puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de progrès à faire en ce qui a trait aux choses comme la couverture d'assurance maladie pour les transitions de genre ou l'accompagnement des employés dans la transition dans le milieu du travail, que ce soit le changement de nom, la transition sociale et toute la bureaucratie des ressources humaines qui entourent ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour rendre les milieux de travail plus inclusifs.
En Alberta, Roséva, est-ce que le milieu des affaires, c'est un milieu qui est positif pour nos communautés?
Oui, c'est intéressant. T'sais, je pense que c'est... Il y a des places où on voit comme Elisabeth a mentionné, la volonté. Mais c'est aussi... je me rends craintive de comme... Tu sais, quand tu parles de l'EDI, c'est les... les entreprises vont utiliser ce qui est important pour eux au moment. Alors, c'est sûr que maintenant, EDI, c'est quelque chose qui est important, c'est trendy, c'est le fun, on va en parler, mais est-ce que ça va être pareil dans 2-3 ans? Les besoins de la communauté vont rester pareils, mais ce qui est, tu sais, à la mode peut-être va changer, et ce qu'on a vraiment besoin, c'est quelque chose qui est ancré dans, tu sais, quelque chose qui est vraiment stable, avec comment c'est fait, mis en pratique, et les politiques, ça soit vraiment quelque chose qui est ancré, parce que quand c'est des compagnies, tu sais, on sait que la culture de la compagnie, ça change, il y a beaucoup de changements, c'est vraiment dépendant de ce qui fait de l'argent, puis l'acceptation queer et trans, des fois, oui, maintenant, on voit que ça fait de l'argent, mais c'est pas toujours à long terme que ça va être quelque chose de rentable. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment savoir comment s'ancrer d'une façon vraiment, vraiment concrète, qu'on ne peut pas juste enlever nos droits quand c'est moins à la mode.
Voilà. Je voudrais terminer avec quelque chose qui m'a marqué. Je l'ai vu, ça, c'est quand même pas récent. On en parlait déjà à l'automne, mais en Ontario, en fait à Toronto, le centre communautaire 519 Church vient en aide aux réfugiés queer. C'est surtout que le discours anti-immigration est aussi fort que le discours anti-queer. Comment ça se passe, ça, à Toronto, Elisabeth?
Ouais, le 519, le 519, comme tous les organismes qui servent les réfugiés, on a remarqué une augmentation vraiment accrue du nombre de personnes qui demandent l'asile au Canada. Et puis le 519 a servi plus de 8000 réfugiés 8 000. LGBT en 2023,
ouais.
Contre 1000 l'année précédente. Comme c'est une augmentation sans précédent. À Franco-Queer aussi, on sert les personnes francophones LGBT nouvellement arrivées. Nous aussi, on a vu cette augmentation absolument sans précédent de la demande. Puis, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, comme la réouverture des frontières après la COVID, la montée de la haine. Mais je pense que ce qui est important et ce que le 519 fait assez bien, c'est de s'organiser de façon créative pour répondre à cette demande. Donc, en février, le 519 a organisé une journée qui s'appelait Love is Action, donc l'amour, c'est l'action. Et puis, on accueillit au-dessus de 1000 réfugiés LGBT en une seule journée. Alors, les ont aiguillés vers les organisations dont elles avaient besoin, leur ont donné des ressources. Alors, c'était assez impressionnant.
Il nous reste à vrai une petite minute et demie. Peut-être un petit mot sur comment ça se passe en Alberta, peut-être, Roséva?
Oui, donc, c'est ça, en parlant aux autres organismes aussi, ils ont vu une augmentation de 300% des demandes d'asile. Alors, c'est quelque chose que, c'est ça, on voit vraiment, c'est une grosse crise. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est que on voit pas aux nouvelles, les gens sont, tu sais, on peut-être cette nouvelle en Ontario, mais c'est que on voit pas comment est-ce qu'on va répondre à cette crise. C'est pas, on voit pas de l'action sur ceci. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin des nouvelles, que les gens sachent, qu'on se mobilise pour ceci.
Rapidement, dans 30 secondes.
En 30 secondes, je peux vous dire que oui, je sais qu'on a un programme, une association pour les réfugiés queer en Nouvelle-Écosse, mais avec 30 secondes, je n'avais pas le temps d'aller dépêcher le nom.
Ben, écoute, c'est pas grave. On va certainement revenir là-dessus parce que c'est un sujet de l'heure. Je voudrais vous remercier. Ça a été une discussion super intéressante de vous entendre. Roseva Fogg-Jenkins, qui est coordonnatrice de programmation au Comité franco-queer de l'Ouest qu'on a rejoint à Edmonton. Elizabeth Brings, qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire franco-queer Toronto, qu'on a rejoint donc à Toronto. Et Dan Robichaud, artiste, activiste, animateur de radio à Clare, en Nouvelle-Écosse. Merci à tous les trois.
Ciao.
Bye bye.
Merci.
Merci.
Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur.
Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 72, dans ce 15 avril 2024. Merci à Marie Massé, Godéric Trob à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à Julie Curley pour la musique, le thème musical. Gerlie Hermelette, chef de contenu numérique, Jean-Sébastien Liberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix et Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine!
Après la pause,